Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP, Carifor-F des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi.
Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F Hauts-de-France. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré aux Open Badges. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir des représentants d'IRFA Formation des Hauts-de-France, membres du groupe IRFA Formation. Pour bien commencer, je vais laisser le soin à nos invités de se présenter.
Donc Hélène Cellier, je suis directrice régionale des Hauts-de-France pour IRFA Formation sur des dispositifs de compétences clés et d'orientation.
Donc effectivement, je suis Sylvain Lalou, je suis chef de projet pédagogique et digital, donc au sein du groupe IRFA Formation, qui comprend effectivement l'entité IRFA Formation des Hauts-de-France.
Les Open Badges sont des projets dont nous avons déjà entendu parler. Mais ce qui rend votre initiative singulière, c'est que vous avez lancé un projet de valorisation des compétences par ces mêmes Open Badges réalisés avec vos équipes. Pouvez-vous, Sylvain Lalou, nous en rappeler la genèse?
C'est un projet de réaliser en fait des badges. Alors ce premier projet a été, on va dire, impulsé par une première région qui était la région Normandie. On a eu des groupes de travail sur des badges plus orientés sur ce que pouvait être un référent numérique, qui avait l'objectif de définir les compétences que pouvait être un référent numérique à l'intérieur d'un organisme de formation par rapport à l'accompagnement des projets, à l'accompagnement du e-learning. Donc ça date de quelques années quand même, mais en fait, souvent, c'était une mission qui était confiée et on n'avait pas cette valorisation en face. Et donc, la Normandie avait un peu poser les bases, on va dire, des badges, déjà avec ces éléments-là, et puis avec le dôme, bien entendu, qui est l'élément central qui a impulsé les badges après partout en France. Ça, c'était l'origine, et à partir de cette origine, on s'est dit que ce serait quand même pertinent de prendre en main ce projet, en tout cas de le prendre bras-le-corps, pour pouvoir l'utiliser pour nos apprenants et valoriser des compétences pour nos apprenants. Une fois qu'on s'était dit ça, la difficulté, c'était de se dire, mais ok, mais on valorise quoi ? En fait. Et donc, l'idée nous est venue de se dire, il y avait le référentiel RecTech. Donc, le référentiel RecTech qui est un référentiel qui permet de reconnaître les compétences transversales avec l'employabilité et les certifications qui avait été établi par le Greta de Versailles. Donc, on s'est dit, on va s'appuyer sur ce référentiel-là qui permet de valoriser tout ce qui est soft skills, compétences douces, compétences transversales et donc qui est suffisamment transverse à l'ensemble de nos filières de formation pour pouvoir valoriser des compétences qui, elles, ne sont pas validées par un diplôme ou une certification pour nos apprenants. Donc, l'origine du projet, elle est vraiment là, c'est de pouvoir compléter la valorisation qu'on peut avoir d'un diplôme ou d'une certification pour un apprenant par, justement, un badge qui vient valoriser quelque chose qui est moins concret, qui est plus de l'ordre du concept, de la posture, du comportement. Pour autant, ils vont peut-être aussi rechercher un emploi. Et par rapport à cette recherche d'emploi, ils vont pouvoir valoriser des compétences qui sont dites douces, donc les fameuses soft skills, qui sont transverses sur leur comportement, sur leur posture à adopter par rapport à un exercice d'un métier. Et donc ça avait un vrai intérêt parce que jusqu'à maintenant, on donnait le côté de, ok, vous avez validé votre projet professionnel, mais voilà, ils avaient juste une attestation de formation, comme quoi ils avaient bien suivi la formation et que leur projet était validé. Mais ça suffisait pas, en fait, en tout cas par rapport aux attentes des entreprises. Et on sait que c'est de plus en plus prégnant dans la part des entreprises de se dire « j'ai besoin de savoir quelqu'un qui a aussi un savoir-être dans l'entreprise et pas juste des savoirs ». Et donc par rapport à ce savoir-être, la valorisation, en tout cas la solution qu'on a souhaité faire en interne, c'est effectivement de badger ces compétences pour valoriser ces fameux savoir-être qui sont des attendus sur le monde de l'entreprise.
On comprend bien l'ambition du projet, la portée « soft skills » qu'il revêt. Comment élaborer des badges dans ces conditions pour viser juste, pour impliquer tous les acteurs, pour obtenir l'adhésion de toutes et tous?
Ça a nécessité une certaine organisation, puisque du coup, l'idée était de créer des badges. Donc, comme on se disait, on va se poser et se baser en appui sur le référentiel du RecTech. Le RecTech est un des référentiels qui possède 12 axes et avait plusieurs niveaux de degrés de maîtrise de ses compétences. On va en reparler un peu plus tard. Mais par rapport à ces degrés de compétences, nous, nos filières, on va dire, ça va de 1 à 8, les degrés. Et il y a les 4 premiers degrés sont les plus importants pour nous, puisqu'on est quand même beaucoup sur de l'insertion, de l'orientation, sur les premiers niveaux de qualification. Donc, on s'est dit 12 fois 4, ça fait 48 badges. Si c'est uniquement l'ingénierie qui produit 48 badges et qui fait une livraison clé en main au formateur, ça va être complètement déconnecté des besoins du terrain, déconnecté de beaucoup de choses. très intellectualisé comme concept, mais pas suffisamment proactif et complètement en lien avec le terrain. On l'a pensé autrement. On s'est dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de pouvoir faire des groupes de travail, justement, sur ces différents axes. Et pour ça, on a invité l'ensemble des coordinateurs pédagogiques du groupe. Donc, ils étaient 14 à l'époque du projet. Donc, 14 personnes pour se dire, bah voilà, on va co-construire avec l'ingénierie et les responsables pédagogiques, ce référentiel, et en tout cas les référentiels de chacun de nos badges, pour pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on met dedans, quels critères, quelles preuves. Donc, à raison de deux fois, une à deux fois par mois pendant 6 mois, en fait, on s'est réunis en groupe de travail en visio. Donc, en plus, ça a permis de se rencontrer, de créer une communauté et de pouvoir faire des liens entre la pédagogie et l'ingénierie de formation, qui parfois déconnectée, mais là, pour le coup, ça a permis de reconnecter, d'échanger ensemble avec les besoins qui ne sont pas les mêmes. Le besoin de l'ingénierie qui est effectivement là, pour le coup, de mener un projet par rapport à des badges, et de l'autre côté, un besoin pédagogique qui est de valoriser les compétences des apprenants et que ce soit réalisable sur le terrain.
Et comment le travail s'est-il organisé? Sur quelle durée est-ce qu'il s'est étendu?
Je dirais qu'il y a eu 3 grandes phases. Ça a duré à peu près 1 an, ce projet. Il y a eu 3 grandes phases. La première phase était les groupes de travail, donc on va dire pendant 6 mois, de 1 à 2 fois par mois, pour réaliser les référentiels. Après, on a une autre phase un peu plus courte sur la communication, le design, pour pouvoir réaliser les visuels de ces batchs sur lesquels se basaient les référentiels. Et puis, bien entendu, instruire une plateforme pour pouvoir les avoir en ligne et pouvoir disposer de ce catalogue. Puis la dernière phase, ça a été le déploiement. Mais on en parlera peut-être juste après.
Hélène Cellier, c'est avant tout un travail collectif qui a été réalisé pour se demander ce qui peut, dans le contexte d'IRFA Formation, être badgé.
Qu'est-ce qu'on pourrait badger? Comment on pourrait le badger? Tout à fait. Que ce soit sur tous les niveaux des stagiaires que l'on peut avoir. Ça peut être aussi une personne qui est sur un dispositif français langues étrangères, et dans ces cas-là, ça peut être un audio de quelques minutes pour montrer que la communication à l'oral en français est acquise, donc on va être sur le domaine, sur le niveau 1 du badge. Il peut déposer un audio sur la plateforme pour que l'évaluateur écoute l'audio et puisse valider le badge, ou un écrit. Mais une photo, ça peut être, il y a plein de modes différents de preuves. Mais ça a bien été réfléchi en amont.
Pouvez-vous, Sylvain Lalou, nous dire comment s'est faite la mobilisation des formateurs?
C'était pas évident. Au début, on s'est dit, OK, on a fait tout un bagage, on a travaillé l'ingénierie, c'est super intéressant. Maintenant, comment est-ce que les formateurs sont au courant que ça existe et comment ils vont pouvoir les utiliser? Donc, par rapport à ça, on a déjà professionnalisé des sortes d'ambassadeurs, en tout cas des personnes qui pouvaient être référents sur les territoires, puisqu'on est répartis un petit peu partout en France, mais sur les différents territoires, on a repéré 2-3 personnes par département, par exemple, en se disant, bah, ce sont nos ambassadeurs, nos référents, on les a formés, on s'est dit que ça suffirait pas, donc on a complété ça avec des webinaires. En fait, on a des professionnalisations à l'interne de la structure, où on propose à peu près un jeudi tous les 15 jours, sur la dernière demi-heure de la journée, donc de 16h30 à 17h, on leur propose de suivre des webinaires sur différentes thématiques pédagogiques. Et en particulier, c'était l'occasion de pouvoir intégrer les badges en se disant, bah voilà, on va leur présenter déjà qu'est-ce que c'est un open badge. Hein, bien entendu, on commence forcément par ça. Mais au-delà de qu'est-ce que c'est un open badge, c'est on a des badges aussi en interne. On vous les présente. Vous pouvez les demander aussi, vous, en tant que salarié, pour valoriser vos compétences transverses. Et on vous montre aussi quels sont les référentiels pour pouvoir accompagner vos apprenants dans la valorisation de ces fameuses compétences douces.
Présenté comme cela, ça semble très bien. Quels peuvent être, quels ont pu être les freins, qu'ils aient été anticipés ou que vous les ayez rencontrés en cours de route?
Alors, c'est pas un changement, c'est une innovation. C'est peut-être le frein à l'innovation des formateurs qui peuvent penser que c'est une surcharge en plus sur leur quotidien que de badger les stagiaires, de présenter les badges, de passer du temps peut-être avec un stagiaire qui a des difficultés sur le numérique. Et c'est pour ça que Sylvain a mis aussi en place les webinaires pour pouvoir expliquer aux formateurs exactement en quoi consistaient les badges, mais surtout aussi l'intérêt et la valorisation du stagiaire vis-à-vis de ces badges-là, pour que les formateurs en voient vraiment l'intérêt pour les stagiaires et non pas cette réticence à l'innovation, puisqu'on peut le constater que certains formateurs peuvent avoir une réticence à l'innovation, au changement. C'est tout ce chemin d'accompagnement de l'équipe pédagogique, justement, à aller vers ces nouveaux outils de valorisation et leur montrer vraiment l'intérêt. Une fois qu'ils ont compris, capté l'intérêt du badge pour leur apprenant, dans ces cas-là, le badge passe beaucoup mieux auprès des équipes.
Revenons aux formateurs. Quels outils ont-ils eu à leur disposition pour accompagner les apprenants, les candidats à l'obtention de badges ? Hélène Cellier, s'il vous plaît.
Déjà, dans un premier temps, le formateur va présenter les Open Badges, va présenter la plateforme, présenter comment on s'inscrit sur la plateforme, va montrer le visuel. Les affiches sont éditées aussi, donc c'est un support en plus visuellement pour que l'apprenant puisse bien s'imprégner des badges. Et aussi, sur leur ordinateur, ils voient les différents badges qu'ils peuvent acquérir tout au long de leur formation. Mais le premier badge est primordial puisqu'on a cette première démarche d'avoir le premier badge. C'est vraiment l'apprenant qui décide s'il le souhaite ou pas. Mais avec une présentation des Open Badges à nos apprenants sur une séance bien dédiée.
Pouvez-vous, Sylvain Lalou, nous dire comment les badges ont-ils été perçus par les apprenants ? Comment est-ce que ces derniers les valorisent ?
J'ai commencé par le plus négatif. C'est normal aussi, il faut dire que ça existe. On a des stagiaires en fait qui ont fait des badges, ou en tout cas on leur a donné des badges. À des moments, on les a accompagnés pour demander des badges. Et en bilan, en fin de formation, on a eu des retours de stagiaires qui ont tout simplement émis le côté de « bah en fait, on a fait des badges pendant le parcours, mais en fait, je sais pas à quoi ça va me servir et à quoi ça sert en fait. » Donc on voit bien qu'on a forcément des loupés sur la partie accompagnement, ou en tout cas sur le sens qu'on peut donner à ces fameux badges. Je pense que voilà, il y a cette partie-là, mais il y a aussi l'autre partie qui est que il y a des personnes qui ont été plus loin que l'accompagnement, puisque en fait les formateurs accompagnent les apprenants sur les badges, mais pas sur les 48 badges. Par contre, on va sensibiliser à la démarche, et il y a des stagiaires qui ont été demandés des badges sans forcément avoir l'accompagnement de leur formateur. Là, dans ce cas-là, comment ils le valorisent ? En fait, les badges, il y a Open Badge Passport, hein, qui est une plateforme qu'on utilise nationalement et qui permet en fait d'avoir sa vitrine de badges et de pouvoir les valoriser.
Pardon de vous interrompre. Comment donc lever ces freins que l'on perçoit dans les propos que vous nous rapportez ?
Là, je dirais, c'est la partie valorisation. Il y a un argumentaire à travailler pour l'apprenant aussi à présenter en entreprise. Les badges, même si on en parle beaucoup, ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre du pédagogique à la base et qui reste quand même beaucoup dans le giron. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour faire des jalons de formation, on l'utilise pour faire de la valorisation de compétences. C'est ce qu'on disait depuis le début. Mais les organismes de formation le connaissent, ou en tout cas, ça se répand de plus en plus et le connaissent de plus en plus. Donc, entre structures, on sait de quoi on parle. Maintenant, une entreprise, elle a l'habitude de recruter sur un CV sur lequel il y a des certifications et des diplômes, potentiellement des aptitudes type qualité, des choses comme ça qui peuvent être mises. Mais si on met un visuel d'un badge qui reconnaît une compétence transverse, l'entreprise, elle va pas vraiment savoir ce que c'est. Elle est pas impliquée, en fait, dans cette démarche. Donc, c'est super important que l'apprenant ait un argumentaire. Moi, je dirais que c'est vraiment une arme à double tranchant, dans le sens où si la personne on a travaillé l'argumentaire en formation, et c'est là aussi où on a des choses encore à faire par rapport à l'accompagnement de nos formateurs, c'est faire travailler l'argumentaire aux apprenants pour que eux défendent les badges vis-à-vis de l'employeur lors de l'entretien d'embauche. Parce que s'il n'est pas en capacité de le défendre, l'entreprise peut lui rétorquer l'argument en lui disant « bah c'est juste un bout de papier et en fait ça ne signifie rien et c'est réel si on le présente que de cette façon-là ». Donc il y a un argumentaire à travailler en expliquant qu'il y a une démarche, il y a une valorisation, un peu à l'image de ce qu'on peut appeler les portfolios, les books, les éléments qui permettent de donner des preuves tangible sur le fait que l'on maîtrise telle ou telle chose, et donc qui n'est pas juste un diplôme. Donc montrer que le badge peut être même peut-être presque des fois plus fort que la certification. Et bien entendu, pour ça, il faut que l'apprenant ait travaillé un argumentaire et qu'il se sente à l'aise pour présenter ça aussi à l'employeur. S'il ne se sent pas à l'aise et qu'il maîtrise pas l'argumentaire, moi je dirais que il vaut mieux qu'il le garde pour l'instant pour lui, en tant que valorisation personnelle pour prendre confiance en soi, pour avoir une bonne estime de soi, mais ça sera difficile à présenter à un employeur, parce que si l'argument est contraire et qu'il n'arrive pas à le défendre, ça se retournera presque plus contre lui que d'être une valorisation.
Qu'en est-il de ces badges dans le temps ? Quelle est leur durée de vie ? Existe-t-il des mises à jour ?
Je dirais qu'il y a deux phases encore sur lesquelles on n'est pas encore dessus, mais qu'on a déjà projeté et qu'on souhaiterait faire par rapport à la durée de vie des badges. Je dirais qu'un stagiaire, on les accompagne aussi en post-formation, donc il y a la possibilité, lorsque les expériences évoluent, de pouvoir demander des badges avec des degrés supérieurs, mais il y a aussi la possibilité d'enrichir son badge, c'est-à-dire qu'il a déposé une preuve, il a été examiné, on a validé le badge, mais on les sensibilise aussi au fait que, parler de portfolio tout à l'heure, on est vraiment sur cette notion-là, c'est-à-dire que la compétence, elle va évoluer également dans le temps, nécessairement, mais le badge va être pareil, c'est-à-dire que si je valide, par exemple, ma capacité d'organiser mon activité ou mon travail, dans 3 ans, 4 ans, peut-être que cette capacité-là, d'une part, elle a évolué, et en plus, je peux avoir des preuves peut-être complémentaires, qui vont venir renforcer cette capacité A. On parlait tout à l'heure de pouvoir le défendre face à un employeur. Bah, plus la preuve et plus le nombre de preuves tangibles est associé au badge, plus le badge a de valeur. Et c'est là aussi où il n'y a pas forcément d'équité dans la notion de badge entre les apprenants, puisque certains vont mettre une preuve simple et d'autres des preuves de plus en plus complexes. Et forcément, celui qui a mis des preuves complexes, même s'il a le même visuel de badge, son badge a plus de valeur, en tout cas plus de poids. Donc dans le temps, en fait, il faut qu'on sensibilise nos apprenants à dire que le portfolio, en fait, ça se complète. Et même si vous n'êtes plus avec nous, même si vous n'êtes plus accompagné, derrière ce badge, vous pouvez y associer de nouvelles preuves, de nouvelles expériences professionnelles.
Je rajouterais juste que les badges, on sont ouverts à tous. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans un dispositif IRFA Formation pour pouvoir demander le badge. N'importe qui peut demander un de nos badges. C'est-à-dire que si le stagiaire a déjà cette application sur son dispositif, peut en redemander un an, deux ans après. S'il en parle à une personne qui n'a jamais été dans une de nos formations, peut venir demander le badge. C'est pas une obligation d'être dans un dispositif chez nous. Pour faire la demande de badge, il est vraiment ouvert à tous.
Finalement, si je reprends l'expression « se former tout au long de sa vie », on pourrait dire « se badger tout au long de sa vie ».
Je rejoins complètement l'idée d'être dans les open badge tout au long de sa vie et avec le choix qu'on peut faire des compétences qu'on a envie de mettre en avant. Je pense qu'il y a une deuxième mutation à que les badges doivent vivre. Je participe à plusieurs collectifs de badgeons, dont aussi Badgeons les Hauts-de-France justement, et on voit bien que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que le badge, il arrive à grandir et à sortir du giron de la pédagogie et aller vraiment vers quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose de commun. C'est-à-dire, on postule tous avec un CV de lettre de motivation et demain, pourquoi pas avec des attestations de badge, en fait. Je pense que ça, c'est super intéressant. Je vois peu de personnes les mobiliser, mais lorsqu'on suit des MOOC, maintenant, les MOOC ont intégré les badges. Donc, c'est-à-dire, on a des certifications, de compétences que l'on développe grâce à ces fameux MOOC qu'on peut faire en totale autonomie. Mais c'est vrai que je pense que les gens sont encore assez timides pour les présenter sur un CV ou les valoriser sur des réseaux sociaux en disant, bah voilà, j'ai fait tel MOOC et j'ai fini. Et en plus d'avoir fini, bah, j'ai obtenu tel ou tel badge. Le badge a grandi, il est dans sa période d'adolescence, mais il faut qu'il devienne peut-être plus adulte et qu'il sorte de la pédagogie, que ce soit pas juste un outil de valorisation de parcours, de valorisation de progression dans le parcours, et que ça soit vraiment quelque chose qui soit propre. On en a dit tout à l'heure, c'est une démarche individuelle, mais qui soit vraiment propre à l'apprenant, et tout au long de sa vie, il va faire évoluer ça, comme on peut se former, acquérir de nouvelles compétences, etc. Je pense que le badge doit accompagner ce parcours, ouais, tout au long de la vie.
J'ai une toute petite question indiscrète, Hélène Cellier. Êtes-vous titulaire de badge ?
Moi, j'ai des open badges de la région de France. J'ai des open badge de l'IRFA et le troisième, je ne sais plus, mais ça m'arrive de temps en temps. Et moi, je rajouterais sur ce qu'on a dit avant, c'est que souvent, les gens ne connaissent pas le système de badge. Et c'est avant tout pouvoir donner de l'information sur le badge, parce que moi-même, j'avais déjà entendu plus ou moins parler des badges, mais je ne connaissais pas vraiment. Quand je me suis mise au badge, bah, j'ai été en demander même autres que les nôtres. J'ai commencé par aller demander, parce que je trouve que c'est important, par exemple, pour un formateur qu'il aille demander un badge. Il connaît la démarche, il voit ce que c'est. Et du coup, on en voit d'autres et on a envie d'aller le chercher et demander d'autres badges. C'est pour ça que quand je me suis inscrite sur la plateforme pour me badger sur nos badges IRFA, j'ai été aussi demander des badges à la région Hauts-de-France, puisque j'avais participé à certaines réunions et ils avaient proposé le badge de la réunion, donc j'ai été demandé le badge.
Combien de badges disposez-vous et combien en avez-vous délivré à ce jour ?
Par rapport au nombre de badges, effectivement, le projet a commencé en novembre 2021. Avec les différentes phases, on a commencé à badger en décembre 2022. Donc là, on va être presque une première année d'expérimentation. On est à 3720 badges délivrés, donc déjà un certain nombre, on va dire, dont, alors, je vous disais qu'on avait 48 badges, on en a exactement, on en a 56 qu'on a créés, et ils ont été délivrés au moins une fois sur, donc 31 sur 56, donc il y a des badges qui, pour l'instant, n'ont toujours pas de possesseur, hein, de propriétaire, mais voilà, 3720 et ils sont acceptés à 93%. Je pense que c'est aussi ça important de le préciser, parce qu'on peut émettre des badges et derrière, comme on l'a dit, démarche individuelle, donc l'apprenant peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Alors, se pose toujours la question de si j'ai demandé quelque chose, pourquoi je ne l'accepterais pas derrière, mais ça reste la démarche individuelle jusqu'au bout du process. Donc, effectivement, il y a 93% des apprenants qui ont demandé un badge qui l'ont accepté. Donc, il y a quand même une marge de 7% d'apprenants qui ont demandé un badge. Donc, ça veut dire qu'on commençait la démarche, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Ça reste quand même un pourcentage pas important, mais en tout cas, à prendre en compte, c'est 7% quand même.
Pour conclure, quel conseil peut-on donner à toute structure qui voudrait initier un projet similaire à celui dont nous avons parlé aujourd'hui ?
Je pense que pour l'équipe pédagogique et les apprenants, c'est l'implication, c'est pouvoir avoir une bonne connaissance des open badges pour pouvoir donner l'envie aux apprenants de se badger, mais tout au long de la vie. Pas se badger pour avoir un badge, voilà. C'est pour se badger tout au long de la vie. Et c'est l'implication des équipes pédagogiques. Et ce que disait Sylvain aussi, c'est être aussi, on le porte le projet, c'est le groupe qui le porte. Donc, si le groupe le porte, c'est du formateur au coordinateur, au référent pédagogique, à la direction, au service transverse. C'est montrer que le projet est ancré dans l'ADN de l'IRFA aussi.
Nous arrivons au terme de cet épisode. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Hélène Cellier, Sylvain Laloux, pour votre précieuse participation. Nous vous remercions, chers auditeurs, pour votre fidélité en vous rappelant que vous retrouverez cet épisode, comme tous ceux qui l'ont précédé, sur le site internet du C2RP et sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.